Oui, en commençant par la fortification des frontières nord des États côtiers d'Afrique de l'Ouest que j'ai mentionné, garantir que tous les autres États côtiers d'Afrique de l'Ouest restent aussi forts que possible, tout en préservant notre alliance clé au Niger.
Des analystes affirment que les États-Unis se focalisent davantage sur le conflit au Sahel, alors que des grandes puissances comme la Russie et la Chine commencent à montrer plus d'intérêt et d'influence dans la région. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu au Sahel la semaine dernière pour apporter son soutien, tandis que la vice-présidente Kamala Harris doit se rendre au Ghana plus tard ce mois-ci.
Merci beaucoup Lionel. Place maintenant à nos invités. Nous avons à Johannesburg Johan Schmonsis, porte-parole en français du département d'État des États-Unis. Et ici à Washington, nous avons donc Michael Shulkin, politologue à 14N Strategies, spécialiste des questions de défense européenne, également sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Merci à vous deux d'être avec nous. Je démarre avec vous, Johan. Est-ce qu'il y a un lien entre la récente visite du secrétaire d'État Anthony Blinken au Niger et la libération des otages Olivier Dubois et Jeffrey Woodkey?
Merci. Tout d'abord, je voudrais souhaiter Ramadan Karim à tous nos téléspectateurs qui célèbrent le mois musulman sacré. En ce qui concerne la libération des otages, bien sûr, les États-Unis se réjouissent de la libération du citoyen américain Jeffrey Woodkey, ainsi que le citoyen français Olivier Dubois, retenu en otage américain pendant plus de 6 ans. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Niger de sa coopération extraordinaire, ainsi que de nombreux acteurs internationaux partout dans le monde qui ont œuvré pour achever la libération du citoyen américain. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de la visite du secrétaire d'État américain au Niger, ils ont abordé tous les sujets d'intérêt bilatéral. Bien sûr, comme vous savez, je crois, les conversations sur des sujets comme la prise d'otage, par exemple, sont très sensibles, mais c'était avec une coopération importante du gouvernement du Niger que la libération du citoyen américain était achevée.
D'accord. Alors, Michael Shulkin, est-ce qu'on peut parler de diplomatie des otages au Sahel et quel rôle le Niger peut-il avoir joué aujourd'hui dans tout ce qui se passe concernant ces prises d'otages d'occidentaux dans le Sahel?
Le rôle du Niger est très important du fait que le gouvernement nigérien collabore très bien avec les Français, avec les Américains et les autres Occidentaux. Donc il y a des rapports diplomatiques qui sont très, très forts. Et aussi, il y a une collaboration entre les services de sécurité qui sont très forts. C'était le cas avant avec le Mali, mais malheureusement, les rapports avec le Mali se sont dégradés. Donc on n'a pas le même niveau de coopération. Et donc c'est pour ça que le Niger va jouer un rôle très important. Même si on regarde toutes les problématiques du Sahel, on va voir que le Niger est devenu le pays clé de la région du point de vue des Occidentaux.
Et justement, Michael, sur le plan sécuritaire, et comme on l'a vu dans le reportage d'Henry Wilkins tout à l'heure, les États-Unis mettent l'accent sur la formation plutôt qu'une présence militaire physique. Qu'apporte cette collaboration dans la lutte contre le terrorisme, notamment? Michael, d'abord.
Cette collaboration est très très importante parce que la formation est essentielle. Oui, bien sûr, les Américains ne vont pas mettre les soldats sur terre pour faire le combat comme les Français ont fait, mais bien sûr, on va continuer avec ces les petits déploiements de forces spéciales qui sont là pour former les soldats. Et à mon avis, c'est une coopération essentielle. Malheureusement, à cause de la loi américaine, les États-Unis ne peuvent pas offrir une telle formation aux forces maliennes et burkinabées, vu qu'ils ont eu des coups d'état militaires. C'est-à-dire que le Niger reste le seul pays dans le Sahel comme ça qui peut être qui peut bénéficier de cette formation. Et c'est pour ça qu'on va voir que les Américains vont faire beaucoup, beaucoup d'attention au Niger dans les mois et les années à venir.
Mm-hmm. Alors, Johan Chimonsis, le secrétaire d'État, a souligné lors de son voyage à Niamey qu'il fallait une approche holistique hein, qui n'est pas basée uniquement que sur le volet militaire. La pauvreté, l'absence de l'État dans certaines contrées étant vraiment des éléments qui favorisent le recrutement par les groupes militants. Comment Washington compte aider ces États justement à remplir leur mission au-delà de la question militaire?
C'est vrai que la coopération entre notre militaire et les forces de sécurité africaines est essentielle. Ça joue un rôle essentiel, mais ce n'est pas la seule base sur laquelle on a établi notre coopération avec dans la lutte contre le terrorisme. Nous reconnaissons, les États-Unis reconnaissent que la marginalisation de certaines populations, la pauvreté, le changement climatique, il y a plusieurs facteurs qui mènent au recrutement dans les groupes terroristes. Et les États-Unis cherchent à adresser tous ces problèmes en partenariat avec les pays concernés. Nous cherchons aussi à renforcer, nos partenaires et les acteurs dans la société civile, dans le secteur judiciaire, police, etc. Tous les acteurs qui peuvent mener à une solution contre ce problème.
Mais Michael Shirkin en a fait un peu allusion un peu plus tôt. Si on exclut, ou en tout cas on limite le type de coopération avec des pays où, par exemple, il y a eu des coup d'État, M. Sponsis. Est-ce que ça ne porte pas atteinte un peu à la lutte contre l'insécurité de façon plus globale quand on connaît un peu la porosité des frontières dans ces régions?
C'est un problème, mais je crois que l'approche de l'administration de Biden est juste. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas fournir l'assistance sécuritaire, mais on peut quand même fournir de l'assistance humanitaire, développement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui va aider les situations. Mais c'est vrai que la loi qui empêche les États-Unis de fournir de l'aide sécuritaire aux pays comme le Mali, le Burkina Faso, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est une loi, une bonne loi, avec des très belles intentions derrière, mais du point de vue politique, c'est peut-être problématique.
Monsieur Schmontzis, vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi les États-Unis sont obligés de limiter leur coopération sécuritaire avec des pays qui, par exemple, où il y a eu des coups d'État, en tout cas qui ne respectent pas certains critères de gouvernance?
Selon la loi américaine et aussi selon la politique de l'administration, il est nécessaire d'abord de mettre en place la bonne gouvernance. C'est fondamental pour achever du progrès dans la lutte contre n'importe quel problème, en particulier un problème comme le terrorisme. C'est pour ça qu'il y a certaines mesures, il y a certaines étapes que nous ne sommes pas en mesure de faire à cause de si par exemple les normes démocratiques ne sont pas respectées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon à s'adresser à
d'autres domaines de coopération.
Exactement. Par exemple, notre diplomatie envers les pays concernés sur le problème du terrorisme, notre partenariat, et de façon continue, nous avons toujours nos équipes en place qui parlent quotidiennement avec les gouvernements sur les questions de concern bilatéral. Et on va passer.
D'accord. Michael, pour développer quand même ces zones qui sont abandonnées ou en tout cas qui favorisent un peu le recrutement par les groupes militants, il faut quand même ouvrir des écoles, il faut aussi qu'il y ait la sécurité, et donc pour investir, il faut quand même la sécurité, non? Et le Norwegian Refugee Council nous a dit cette semaine qu'au Burkina Faso, par exemple, plus d'un million d'enfants sont privés d'école en raison de la fermeture de 6 000 établissements. Alors, dans ce contexte, comprenez-vous l'approche purement militaire que certains brandissent?
L'approche militaire, ça peut être nécessaire, mais c'est jamais suffisant. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on a vu dans la région depuis les dernières, dans les dernières décennies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer suffisamment de terroristes pour faire taire le problème. Il faut le bon gouvernance, il faut parler, il faut s'adresser à tous les problèmes qui motivent, toutes les raisons pour lesquelles les gens prennent des armes pour lutter contre le gouvernement. Et une NFE uniquement militaire ne mène à nulle part. Ça peut être essentiel, mais c'est jamais suffisant. Et c'est ce qu'on a vu au Mali. C'est-à-dire au Mali, le Mali a été le récipient de beaucoup d'assistance militaire des Français, des Américains, etc. Mais le Mali, le gouvernement malien n'a pas fait du tout de progrès de point de vue de gestion des conflits internes et de la politique interne. On a presque rien fait. Et dans cette absence de progrès de gouvernance, toute cette aide, toute cette assistance militaire n'a pas apporté des fruits qu'on voulait avoir.
D'accord. Alors on va lire rapidement quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique par nos téléspectateurs. Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit que, outre la formation de nos soldats par les forces spéciales américaines, l'Afrique a besoin d'équipements militaires, notamment des avions, des armes, des chars, des hélicoptères de combat. Pour une lutte plus efficace, les Américains devraient accepter cette diversification des partenaires qui fait l'affaire des pays africains. Et puis, Archiduc Théodore N'Djamena au Tchad, il écrit, pour lutter contre le terrorisme, il faudrait bien former les soldats africains, les outiller en armes, les appuyer par des systèmes de renseignement avec des drones appropriés pour contrôler tout mouvement djihadiste. Alors, avant donc de prendre une pause, peut-être une réaction très rapide de Shmonsi sur ces réactions de nos téléspectateurs. C'est plus l'aspect militaire qui attire leur attention, M. Shmonsi, rapidement avant la pause.
Notre focus toujours est l'efficacité de l'aide militaire, de la coopération militaire. Si ça consiste exclusivement à la formation, ou bien si c'est bien focalisé sur la formation, c'est selon une analyse des besoins du pays concerné. Un point de vue politique pour le fournissement d'armes, mais ça doit suivre une approche globale.
Une approche globale, d'accord. Alors, merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum, qui revient après une courte pause.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous.
C'est nous.
De vous retrouver. seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Johannesburg, Johan Schmonsies, porte-parole en français du département d'État, Niagale Bakayoko depuis Paris qui a pu nous rejoindre, Niagale Bakayoko qui est présidente de l'African Security Sector Network, spécialiste des questions sécuritaires et du Sahel. Elle nous rejoint donc par téléphone et ici à Washington sur Skype, Michael Shalkin, politologue à 14N Strategies, spécialiste des questions de défense européenne et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Alors, Johan, le secrétaire d'État, dans un entretien avec l'AFP, dit que partout où Wagner se rend, des mauvaises choses tendent à arriver. Alors pourquoi la présence de Wagner au Sahel préoccupe Washington?
Bon, il y a plusieurs raisons. Il y avait ce que le secrétaire d'État a dit que les résultats après l'intervention des forces de Wagner ne sont jamais positifs au long terme et compréhensiblement. Le problème, c'est qu'il mène à des résultats ou bien des. Ça finit avec, normalement avec un pays plus pauvre, moins indépendant. Plus violents, leurs interventions sont violentes, sont axées sur une solution militaire, ne sont pas compréhensibles comme notre politique, par exemple, et notre approche au problème de terrorisme. Il y a aussi le problème de l'exploitation de ressources. Ça vient toujours avec une intervention de Wagner. Ils ne font pas ça par amour du pays concerné. Ils ne font ça pour leur propre vie.
D'accord. Alors, Niagale, les Occidentaux ont-ils raison d'attirer l'attention sur Wagner? On signale que c'est quand même une coopération qui est différente de celle d'État à État. Mais ont-ils raison de souligner un peu les risques ou en tout cas ce qu'ils considèrent comme des risques?
Alors, ils ont raison dans la mesure où il est avéré par les témoignages de très nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, non seulement internationales mais aussi locales, qu'il s'agit d'un acteur qui se livre à des exactions très graves, notamment sur les populations civiles. Ils ont aussi des raisons d'être préoccupés parce qu'il s'avère s'agit d'organisations extrêmement efficaces en termes de guerre informationnelle. Mais je pense que leur façon de surévaluer, de se surfocaliser sur le rôle de Wagner, qui très objectivement n'a pas démontré des performances opérationnelles sur le terrain particulièrement fulgurantes, pour dire le moins, et qui en réalité masque le rôle d'autres acteurs tout aussi importants, pas seulement au niveau étatique, et d'une façon, à mon avis, une fois encore, de lire l'environnement sécuritaire africain en fonction des prismes et des intérêts de lecture des acteurs extérieurs. Lorsque j'entends ces intentions de qualifier Wagner d'organisation terroriste, la décision a d'ores et déjà été prise au niveau du Parlement européen et il semble qu'on l'envisage aussi du côté du Parlement français. Il me semble qu'il y a là des amalgames qui sont faits entre des acteurs de nature totalement différente qui tendent encore davantage à brouiller les cartes et à masquer la réalité des réels enjeux qui caractérisent l'insécurité sur le continent africain.
Et Michael, justement, que répondez-vous à ceux qui disent que les pays ont le droit de choisir leurs partenaires et que de toute manière l'exemple de Barkhane est là et que cela n'a pas marché, donc il faut essayer autre chose. Qu'est-ce qui fait la particularité de Wagner et pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Il y a trois raisons, au moins trois raisons pour lesquelles le Wagner est différent. D'abord parce que je suis absolument convaincu que la Russie ne s'intéresse pas à stabiliser ce pays-là. La Russie n'est pas là pour aider, la Russie est là pour déstabiliser la région. Deuxièmement, c'est bien documenté que Wagner sont fous des droits de l'homme et sa tactique, c'est de faire des exactions contre les civils. Et peut-être troisièmement, ce qui me fait de la peine, c'est parfois que j'ai l'impression que les gens dans la région, quand ils entendent ça, ils se disent tant mieux, parce qu'il faut casser les œufs, refaire des omelettes. Et donc, c'est comme ça, il faut enlever les gants pour gagner contre les terroristes. Mais le problème, c'est que du point de vue stratégique, c'est la folie, parce qu'on ne fait que radicaliser, on radicalise les populations locales en les traitant avec une telle méprise, en les fusillant comme ça. Donc, du point de vue stratégique, enlever les gants, ça n'aide pas.
Alors, on a peut-être moins de 3 minutes. Je voulais poser la question à vous trois. Comment équilibrer cette offre de coopération gagnant-gagnant tout en faisant face à cette accusation de condescendance que certains critiques brandissent contre les Occidentaux? Je commence avec vous, oui. Michael.
Il faut absolument que l'Occidentaux réapprenne à parler avec les partenaires africains, parce que c'est absolument vrai que les pays occidentaux ont l'habitude de traiter les pays africains avec une certaine condescendance, même si ce n'est pas conscient, c'est pas voulu, c'est pas fait exprès, mais c'est la réalité. D'accord. Et donc il faut absolument que nous fassions attention à la manière dans laquelle nous parlons avec nos partenaires.
D'accord. Niagale?
Il faut tout simplement que, comme dans toutes les autres régions du monde, les politiques occidentales s'adaptent à leurs partenaires sur le continent africain et non pas cherchent à les modeler à leur image en cherchant à façonner la façon dont leurs institutions, dont leurs forces de sécurité ou dont leur appareil économique fonctionne. Aujourd'hui, il doit y avoir une normalisation de la relation avec l'Afrique qui passe par le fait d'accepter les revendications, les normes et les valeurs des États africains au lieu d'essayer de les leur imposer de l'extérieur.
Mmh. Alors, M. Schmonsis, accepter certaines valeurs pourrait signifier aussi renier certains principes que les Occidentaux mettent en avant. Comment est-ce qu'il faut concilier tout cela?
Bon, selon notre politique, ce qui a été expliqué, annoncé pendant le sommet des dirigeants américains-africains au mois de décembre, les buts des États-Unis sont d'approfondir et élargir le partenariat avec les pays africains, renforcer et chercher un leadership africain pour s'adresser à tous les problèmes qui confrontent le continent, amplifier les voix africaines pour dans le monde entier, par exemple en élargissant les sièges permanents au Conseil de sécurité, et aussi pour activer toutes les ressources des États-Unis, des ressources gouvernementales, par exemple toutes les agences des États-Unis, envoyer plus de visiteurs, d'officiels aux responsables américains au continent, ce qui est en train de se passer maintenant. Et nous cherchons une approche globale pour approfondir notre partenariat. D'accord. Et ce partenariat, pour moi, le mot clé.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à Niagale qui a réussi à nous rejoindre par téléphone malgré la grève en France. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com. Et sur notre page Facebook. Encore merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.